BW. Magazine Santé.
De la conception à l'accouchement, la grossesse est une période très particulière dans la vie d'une femme. Nausées, acné, anémie, voilà certains problèmes de santé ou maladies qui apparaissent durant la grossesse à cause des bouleversements hormonaux ou de la fragilité du corps de la femme. Dans ce nouveau numéro de votre magazine Santé, nous parlerons du diabète gestationnel, connu sous le nom du diabète de grossesse, qui survient chez la femme enceinte vers la fin du deuxième trimestre. Et dans la seconde partie, nous irons à Lomé, au Togo, pour parler de l'anémie. Bonjour et bienvenue, Nafissa Amadou au micro. Selon les chiffres disponibles sur la santé des femmes, le diabète de grossesse touche 3 à 20% des femmes enceintes. Il se manifeste par une augmentation de la glycémie vers la fin du deuxième et au troisième trimestre de la grossesse. Dans la majorité des cas, la maladie disparaît après l'accouchement, mais la mère risque de développer le diabète de type 2 dans les années suivantes. Quels sont alors les signes annonciateurs du diabète gestationnel? Certaines femmes sont-elles plus susceptibles que d'autres de développer cette maladie? Enfin, quels sont les risques et autres complications possibles pour la mère ainsi que pour l'enfant? Écoutons le docteur Abdoulaye Diop. Il est gynécologue obstétricien et médecin-chef de la clinique Maison de la mère et de l'enfant de Dakar au Sénégal.
Le diabète de grossesse, encore appelé diabète gestationnel, doit être suspecté d'abord en début de grossesse. Lorsque la patiente, lors de son bilan de grossesse au premier mois, présente une glycémie supérieure à 0,92 g par décilitre, ou bien lorsqu'elle présente des prédispositions héréditaires à avoir un diabète gestationnel, il faudrait déjà y penser et sensibiliser la patiente par rapport à son alimentation. Le diagnostic définitif du diabète gestationnel se fait à partir de la 24e semaine d'aménorrhée par un test spécial qu'on appelle le test de l'OMS ou hyperglycémie provoquée.
Et quelles sont les femmes à risque?
Ce sont justement les femmes qui sont en surpoids ou bien les femmes qui ont une alimentation trop riche en sucre ou bien les femmes qui ont eu à accoucher de bébés qu'on appelle macrosomes, ce sont des enfants qui pèsent plus de 4 kilos, ou bien les femmes qui ont du diabète gestationnel dans leur famille, ce sont ces femmes-là qui ont des risques de développer à leur tour un diabète gestationnel durant leur grossesse.
Et lorsque vous recevez une femme qui est enceinte, et que vous détectez justement ce diabète gestationnel, qu'est-ce que vous faites ensuite?
La première étape du traitement, ce sont des conseils hygiéno-diététiques par rapport à son alimentation, avec surtout une diminution des apports en sucre chez la patiente durant sa grossesse. Parfois, un simple régime arrive à stabiliser ce diabète gestationnel. Sinon, la patiente devra être mise en rapport avec un diabétologue qui va lui mettre en place un traitement à base d'insuline par injection. Et c'est cette insuline-là qui permettra de stabiliser ou de faire baisser l'hyperglycémie présente dans le sang. La surveillance du bébé se fera de manière échographique parce que nous savons que dans le diabète gestationnel, il y a une augmentation de la croissance du bébé avec un risque de certaines malformations chez le bébé, notamment les malformations cardiaques. Donc une surveillance rigoureuse de la taille, de la croissance du bébé, de la quantité de liquide amniotique et des organes internes du bébé sera faite durant toute la grossesse. Et enfin, la grossesse chez la patiente porteuse d'un diabète gestationnel ne devra pas dépasser 38 semaines d'aménorrhée. Donc à 38 semaines d'aménorrhée au plus tard, il faudra programmer un accouchement chez cette patiente. Et si les conditions d'accouchement par voie basse et les patientes ne sont pas optimales, envisager une césarienne.
Et est-ce que cette patiente-là doit, par exemple, contrôler son taux de glycémie tous les jours?
Oui, le contrôle du taux de la glycémie doit être régulier tous les jours. Peut-être pas, sauf si c'est une patiente qui a déjà un diabète avant la grossesse. Et le contrôle peut se faire de manière hebdomadaire.
Est-ce qu'il y a des mesures à prendre pendant et après l'accouchement?
Oui, avec l'augmentation du liquide amniotique et parfois le bébé de gros poids de naissance, il est fréquent de se retrouver soit avec des difficultés lors du travail, telles qu'une dystocie de démarrage ou une dilatation stationnaire. On peut se retrouver aussi très fréquemment avec une hémorragie dans le postpartum après l'accouchement liée à la surdistension utérine. C'est état de hyperglycémie aussi est un état propice au développement de certaines infections et il est fréquent de se retrouver avec une infection puerpérale, une infection postpartum ou même des suppurations dans les suites opératoires d'une césarienne.
Est-ce qu'après l'accouchement, l'enfant doit être pris en charge tout de suite? Est-ce qu'il y a des vaccins à faire et tout ça?
L'enfant qui naît dans l'âge gestationnel, ils sont très gros, ils sont très costauds, mais malheureusement, ils ont une santé assez fragile liée à cette hyperglycémie chronique qu'ils ont subie dans le ventre de femme de leur mère. Et donc, ils sont régulièrement sujets à des infections, notamment des infections pulmonaires. Et donc, l'enfant devra être confié au pédiatre dès sa naissance pour une surveillance très rapprochée. Ce sont des enfants aussi qui, très tôt dans leur vie, dans les premières heures de vie, vont faire des hypoglycémies pouvant être mortelles. Et donc, une surveillance stricte à chaque heure de leur glycémie est nécessaire jusqu'à ce que cette glycémie commence à se stabiliser. Et enfin, dans le suivi pédiatrique à long terme, ces enfants sont susceptibles de se retrouver avec une obésité ou un surpoids. Et eux-mêmes, à l'âge adulte, très souvent sujets à des diabètes ou à un diabète gestationnel à leur tour. Et donc, cette surveillance-là se fera tout au long de leur vie.
La patiente aussi, la maman doit être suivie après la grossesse. Elle doit être suivie pendant combien de temps et après combien de jours ou combien de mois est-ce qu'on peut dire, voilà, vous n'avez plus le diabète?
En général, le diabète gestationnel a tendance à disparaître après la grossesse et à revenir lors de la grossesse précédente. Il sera conseillé à la patiente une surveillance de sa glycémie dans les 40 jours après l'accouchement et des mesures hygiéno-diététiques qui étaient mises en place durant la grossesse pourront être prolongées.
Et est-ce qu'une femme qui a déjà eu un diabète gestationnel, on peut dire tout de suite que la prochaine grossesse, elle aura aussi ce diabète-là? Est-ce que c'est systématique?
Pas obligatoirement. Il n'est pas dit que parce que vous avez fait un diabète gestationnel à une grossesse, que la suivante, vous en ferez obligatoirement. Mais il est à noter que le diabète gestationnel, avoir un antécédent de diabète gestationnel, prédispose à en faire un autre lors de la grossesse suivante si les mesures hygiéno-diététiques n'ont pas été respectées. Mais on peut très bien avoir un diabète gestationnel à une grossesse et à la suivante ne pas en avoir.
Docteur Abdoulaye Diop, gynécologue, obstétricien et médecin-chef de la clinique Maison de la Mère et de l'Enfant de Dakar. Vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Santé sur la DW, la radio internationale d'Allemagne. Cette semaine, nous parlons des maladies et troubles liés à la grossesse. Après le diabète gestationnel, nous allons à présent aborder un problème très fréquent chez les femmes enceintes. Il s'agit de l'anémie causée par un manque de vitamine B12 ou d'acide folique et surtout d'une carence en fer. Plusieurs signes montrent la présence d'une anémie chez la femme enceinte, comme la sensation de fatigue ou de faiblesse, le vertige, les nausées ou le rythme cardiaque accéléré et irrégulier, comme nous le montre ce reportage réalisé à Lomé par Elodie Amen.
À 5 mois de grossesse, Monique a commencé à avoir des problèmes de santé, notamment des vertiges et une fatigue persistante. À l'hôpital, son gynécologue lui diagnostique une anémie modérée et depuis, elle prend des précautions.
Je n'ai pas de problème d'anémie avant, mais au cours de ma grossesse, à 5 mois de grossesse, je me sentais des vertiges, des fatigues. J'ai beaucoup souffert, je me sentais mal, je n'ai pas la force surtout, j'avais très mal au bas ventre. Je vomissais aussi, mais disons une fois par semaine. Arrivé à la consultation, mon gynécologue m'a fait savoir que mon sang avait diminué. Donc, elle m'avait prescrit quelques médicaments que je prenais.
L'anémie est une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. L'hémoglobine, c'est cette substance présente dans les globules rouges du sang. Elle permet à ces derniers de transporter l'oxygène vers tous les organes du corps. La cause la plus fréquente d'une anémie est une carence en fer. Chez la femme enceinte, cette carence se manifeste de plusieurs manières. Docteur Gezé Sewa, médecin gynécologue obstétricien.
Elles sont souvent fatiguées et lorsque cette anémie-là est encore sévère, il y a des pieds qui vont s'enfler avec des vertiges, des essoufflements, le cœur qui bat très vite, ce qu'on appelle la tachycardie. Alors cette femme enceinte, lorsqu'elle est anémiée, si elle accouche, elle est exposée à un risque d'hémorragie de la délivrance parce qu'elle va encore saigner beaucoup, parce qu'elle n'a plus de facteur de coagulation, elle va saigner et elle risque de mourir d'une hémorragie dans les suites de couche. Mais bien avant l'accouchement, cette femme qui est anémiée a un grand risque d'accoucher prématurément. Elle a un risque d'accoucher un nouveau-né qui sera de petit poids, on parle d'hypertrophie fœtale. Ou chez la femme qui a des tas tels que la drépanocytose ou les bêta-thalassémies, ces maladies-là ou ces tas expose donc cette femme-là à d'autres risques d'éducation au cours de la grossesse.
L'anémie survient chez la femme enceinte dès le début de la grossesse, généralement aux alentours de la 20e semaine. En effet, à cette étape, les besoins en fer de la future maman augmentent beaucoup, précisément de 20 à 50 mg par jour, car le bébé puise dans ses réserves de fer pour se développer. De plus, le volume sanguin maternel augmente, donc il faut plus de fer pour fabriquer les globules rouges. Pour éviter une grossesse à risque, la prévention doit être de mise. Docteur Gezé Siwa.
La prévention, c'est d'abord, avant de tomber enceinte, il faut ce qu'on appelle les consultations préconceptionnelles. Cela permettra de savoir si la jeune femme qui veut tomber enceinte n'a pas des déficits en fer ou en acide folique. Et dans ce cas, on fait une supplémentation avant que la femme ne tombe enceinte. Donc, lorsque cette femme-là a un déficit avéré en folate, il y a un risque qu'elle ait un fœtus mal formé. Concernant toujours la prévention, les femmes enceintes doivent être déparasitées pour leur éviter l'ankylostomiase. Maintenant, pour les femmes qui sont anémiées, lorsque l'anémie est modérée, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine qui est compris entre 9 et 11 grammes d'hémoglobine, on va leur faire un apport en fer et en fer élément à la dose de 20 mg par jour et avec des contrôles réguliers.
Au-delà des médicaments, la meilleure solution pour éviter les anémies de grossesse et d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Aussi, il est recommandé de privilégier les aliments riches en fer, comme les viandes rouges maigres, très cuites, les crustacés, bien cuits également, les poissons, les fruits secs, le pain complet, les céréales, les légumes secs, et les aliments riches en acides foliques, comme le jaune d'œuf et les légumes verts à feuilles. Elodie Amène Alomé pour la Deutsche Welle.
Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait.
Merci Elodie Amen. Ainsi prend fin donc votre magazine consacré aux troubles et maladies liées à la grossesse. Vous pouvez l'écouter et la réécouter sur notre site internet www.com/français rubrique médiathèque. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.
Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre.